Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 27e pour cette 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Bertrand Malquier.
Messieurs, bonjour.
Alors vous êtes adjoint au maire, premier adjoint à la mairie de Narbonne, et vous êtes également secrétaire général du mouvement Nouveau Narbonne. Autant de casquettes qui vont nous intéresser dans une troisième partie pour une longue interview. Auparavant, comme c'est notre tradition traditionnelle, n'est-ce pas,
oui,
Michel, un sommaire qui commencera par un billet que tu as écrit et que tu reprends ici, une toile d'Hervé Dirossa. Tu rappelleras succinctement, oui, qui est Hervé Dirossa, mais beaucoup de Narbonnais le connaissent de toute façon. Une toile de ce peintre serait, paraît-il, raciste et serait exposée impunément, si je puis dire, et de manière provocatrice à l'Assemblée nationale.
Oui. Bon.
Notre-Dame de Paris, évidemment, tout le monde en parle. Notre drame, comme titraient certains journaux. Et puis, en deuxième point, la montée des eaux au Castellou. Alors, on verra que c'est une montée des eaux qui constitue une baisse parfois financière.
Ça, oui.
Et avec tout un tas d'implications fort complexes, le Castellou, le Grand Castellou, étant ce domaine qui se trouve dans la Camargue narbonnaise, là-bas, du côté de Mandirac. La toile d'Hervé... Alors, Hervé Dirossa,
oui,
en deux mots, resitue-le.
Bien sûr.
Les gens qui vont, par exemple, au Grand Buffet connaissent Hervé Dirossa.
Oui, bien sûr. Mais Hervé Dirossa est un peintre bien connu dans la région, l'ex-Languedoc-Roussillon.
C'est toi,
non ? Mais c'est ce que j'allais dire, oui. Bien connu dans l'ex-Languedoc-Roussillon et d'une manière générale dans le monde entier. Il a dépassé, sa notoriété dépasse largement nos frontières. C'est un Sétois que j'ai connu d'ailleurs dans les années 80, hein, au tout début de l'installation de la collectivité territoriale régionale. Le maire à l'époque était Yves Marchand, le maire de Sète, qui était aussi le vice-président en charge de la culture, et donc de par cette fonction-là,
il
fait à la région,
promu un peu.
Voilà, exactement. Mmh. La promotion de Dirossa a été largement faite à l'époque aussi par cette institution. Donc Dirossa, largement connu dans le monde entier, avait été recruté, si je puis dire, à l'époque par le président de l'Assemblée nationale, qui était ni plus ni moins
Monsieur
que
Fabien.
Laurent Fabius, c'est ça, c'était en 1991. Pour faire une série de toiles, 13 hein, au total, sur l'histoire de l'Assemblée, en fait, et donc de l'histoire de France à travers 13 tableaux, 13 thèmes. Et parmi ces 13 thèmes, tableaux, il y a un tableau qui représente l'abolition de l'esclavage, effectivement, par la République. Et c'est ce tableau, précisément, 1991 quand même,
hein, oui,
qui a été remarqué,
qui sont longs à la détente.
C'est ça, qui a été remarqué par deux jeunes chercheurs, ils enseignent tous les deux fait dans une université américaine.
Ah, mais c'est des chercheurs qu'on finit par trouver alors.
Exactement, mais qui, ils sont jeunes quoi. Donc
quelqu'un
a peut-être dû les inciter à aller regarder du côté de l'Assemblée nationale, mais pas que ça quoi. Hein, ce sont deux jeunes chercheurs qui sont dans cet univers en fait intellectuel et politique qui reconstruit en fait la critique en fait sociale et politique de la colonisation, oui, en expliquant que je vais très vite quoi, hein, l'État français est toujours en fait structurellement colonial en fait dans sa manière de penser son rapport effectivement à ses anciennes colonies et à ses anciens habitants dont certains aujourd'hui sont des citoyens français et notamment ces deux jeunes chercheurs en question. L'un s'appelle que je cherche,
ouais, enfin,
un,
bon, chaque, bon,
peu importe, Julien, et bon, l'autre Fatou Diang. Donc ces deux-là sont tombés sur cette toile de Dirossa, ont publié en fait une tribune dans l'Obs qui est tout à fait typique comme un dos de cette tendance
publication fort
etc.
adaptée,
et ont lancé une pétition pour demander tout simplement le retrait de ce tableau qu'ils considèrent comme véhiculant, banalisant en fait le racisme. Alors quels sont les arguments avancés par ces deux jeunes chercheurs et qui explique, en tout cas, qui fera comprendre, en fait, à nos auditeurs, les raisons, effectivement, de leur critique, qui explique que ce tableau, dans son iconographie, hein, ses référents esthétiques, j'ouvre la parenthèse, référents esthétiques de Dirossa sont universels, à savoir que tous ces personnages présente, qu'il soit jaune, vert, rouge, blanc, en fait noir, toutes les couleurs, bon, peu importe, tous ces personnages, ce soit sa signature esthétique, ont des grosses lèvres charnues, tous, d'une denture en fait immense, des yeux exorbités, qu'ils soient noir, blanc, jaune ou vert, bleu, en fait, bref, ils sont tous représentés de la même manière. C'est, comment dirais-je, la conception de l'universel humain de Di Rosa. C'est pas du tout. Donc là,
c'est pas les lèvres au Botox. Hein,
exactement. Donc là, il a utilisé, mais comme pour les 12 autres affiches de cette exposition, il a utilisé les mêmes
référents,
ses mêmes codes esthétiques, sa signature en fait de peintre mondialement connu pour faire cette affiche. Et effectivement, bon, il présente deux noirs qui brisent leur chaîne, hein, avec des lèvres charnues, des yeux exorbités, des dentures en fait immenses, comme tout. Ces personnages de tous ces tableaux exposés dans toutes les parties du monde.
Détail qui apparemment a échappé aux chercheurs.
Non, parce que ça n'a pas échappé aux chercheurs. Ah, parce qu'autant ils reconnaissent dans leur tribune, que j'ai lu attentivement, que Di Rosa ne peut pas être suspecté de racisme, puisque Di Rosa n'a cessé pendant toute sa carrière de peintre de donner des gages à la gauche, qu'elle soit d'extrême en fait, gestionnaire d'équipement. Hein, il a toujours proclamé son antiracisme, mais là, en fait, il est pris par justement une certaine catégorie d'antiracistes que j'ai rapidement décrit en début d'exposé, qui considère qu'effectivement on n'a pas suffisamment loin dans la critique de l'antiracisme, mais que même les antiracistes d'aujourd'hui utilisent des codes, en fait, des codes esthétiques qui, structurellement et intellectuellement, sont de nature raciste.
Oui, enfin, donc, si je comprends bien le message, c'est moi, je suis chercheur, j'arrive, je débarque,
non,
et
c'est pire
je vais donner
ça.
Des leçons à tout le monde.
Non, c'est pire que ça. Donc, je demande tout simplement que la censure, en fait, s'applique et qu'on retire purement et simplement cette toile. Voilà. Mais ça veut dire, au-delà, que ces deux jeunes chercheurs disent de manière parfaitement claire, en fait, à Di Rosa, vos codes esthétiques sont structurellement, en fait, racistes. Je vous demande donc, c'est pas dit comme ça, purement et simplement de changer de vocabulaire, de ne plus faire de tableau qui peu ou prou pourrait rappeler effectivement ces références.
Toute modestie mis à part, ces deux jeunes qui ont envie de parler d'eux, ils ont réussi. Bon, ben voilà, passons peut-être à autre chose.
Non, mais ils n'ont pas réussi, mais ça veut dire que ce genre de pratique, de mon point de vue, consolide dans l'esprit d'un certain nombre de Français, hein, loin, en fait, et loin du propos recherché par ces chercheurs, consolide justement des comportements réactifs et négatifs par rapport à ce genre de comportement, et qui donc consolide, en fait, et enrichissent d'une certaine manière un antiracisme latent.
Voilà. En fait, le but qu'on recherche, eh bien, on obtient un but complètement inverse.
Exactement.
Et ça échappe peut-être à l'intelligence de ces grands chercheurs. Mais comme dit le célèbre dicton, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
Oui, bon, je te laisse à paternité cette référence.
Ça me plaît beaucoup, ça pourrait ramener un peu plus de modestie chez certains. Alors, un petit mot sur Notre-Dame de Paris.
Deux mots rapides, que veux-tu que je dise de plus que ce qui a été dit, sinon que comme beaucoup de Français...
Oui, beaucoup a été, et pas comme, seulement des Français, d'ailleurs.
Comme beaucoup de Français, mais beaucoup aussi d'amoureux de la France, de sa culture, de ses institutions, de son histoire, de son patrimoine, etc., quand j'ai vu ces images que je n'ai pas regardées très longtemps, je ne pouvais pas les supporter, en fait, pour tout dire, j'étais bouleversé, j'avais la gorge nouée, les larmes aux yeux, etc. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, et au-delà des convictions, en fait, religieuses des uns et des autres, enfin, que l'on soit athée, que l'on soit catholique, que l'on soit chrétien, que l'on soit protestant, que l'on soit tout ce qu'on voudra, on ne pouvait pas ne pas être touché, en fait, dans son corps et dans son âme, si je puis me permettre, parce que ce qui s'est passé là, 1000 ans d'histoire qui partait en fumée, avec tout ce que cela représentait, quoi, en fait, de rapport à la culture, de rapport à une histoire, de rapport à une civilisation, une civilisation qui montre bien quand même, et je vais terminer là-dessus, que dans ce pays, en fait, au-delà de tout ce qui peut diviser, en fait, les Français, d'où qu'ils viennent, en fait, quelles que soient leurs convictions religieuses, en fait, ou politiques, hein, à travers cet événement-là, tout d'un coup, en fait, c'est une espèce de sentiment d'unité, en fait, hein, d'unité dans, ouais, et de communion nationale.
Parce que c'est un patrimoine qui, évidemment,
un sentiment de communion, un sentiment de communion nationale qui, peut-être paradoxalement, mais pour moi c'est pas un paradoxe, s'est exprimé là, du coup, devant un spectacle qui mettait en, tout simplement, en péril l'existence même d'une cathédrale.
D'une cathédrale, oui. Mais bon, ça rappelle aussi les faits, à savoir une cathédrale comme celle-ci, fut-elle celle-ci, peut disparaître en quelques heures. Les faits nous l'ont démontré.
Oui, alors, si tu me permets.
Avec une grande ironie et une grande cruauté, si je puis dire.
Oui, je terminais d'ailleurs, tu fais bien de faire cette remarque, parce que ce qui m'a surpris et étonnamment surpris, c'est la réaction de l'archevêque de Paris, qui, loin de toute emphase, loin de tout pathos, oui, effectivement, devant ce spectacle, qui pour lui, en fait, ne peut être que désolant, en fait, attristant, a conservé une dignité, en fait, et une, comment dirais-je, distance par rapport à Pierre, en disant, en fait, une chose qui, d'un point de vue, en fait, catholique, me semble évident, mais qui est extraordinaire. Ce qui importe surtout, c'est effectivement la présence réelle du Christ dans cette cathédrale, et cette présence-là, elle y est, elle y sera toujours.
Voilà, et nous marquons une première pause.